quand on voit dans les projections de l'Agence internationale de l'énergie qu'on doit donc multiplier par 6 la consommation de minerais d'ici 2040 pour rencontrer les objectifs de neutralité carbone, quand on voit le bâtonnet, 2/3 de la demande, c'est pour les véhicules électriques.
Comment est-ce que nous donnons de la force aux voies du Sud ?
Quels métaux pour quels besoins ?
Quels métaux pour quels besoins ? Voici l'enregistrement d'une discussion qui donnait suite à la projection du documentaire Cobalt, l'envers du rêve électrique. Avec Géraldine Duquesne, conseillère à Utopia, et Calvin Suarez, enseignant et ancien député écolo, militant décolonial. La discussion est animée par Clara Gatougou de Écologie. Est-il possible que les populations du Sud vivent dignement de l'exploitation de leurs minerais ? Et à cette condition de vie digne, les populations du Nord peuvent-elles bénéficier des nouvelles technologies et avancer sur la transition ? Vous êtes au Verpop de Namur le 23 août 2024 et la première personne à prendre la parole est Géraldine Duquesne, conseillère à Utopia.
Un extractivisme éthique, comme on l'a vu dans le documentaire, aujourd'hui ça existe peu, voire pratiquement pas. Par exemple, pour donner un petit chiffre, il y a un ranking qui a été réalisé par la Responsible Mining Foundation, qui a évalué 40 entreprises minières sur base de 250 sites miniers, dont des entreprises européennes. C'est pour montrer qu'il n'y a pas forcément, qu'on ne fait pas forcément mieux que les autres. Et le résultat de cette évaluation, ça a montré que 94% de ces sites miniers avaient une moyenne de 20% en fait, sur une série de critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Donc c'était des résultats médiocres avec très peu d'évolution en fait, depuis toutes ces dernières années. Ce qu'on peut observer, c'est que souvent les droits humains, sociaux, environnementaux, c'est vraiment la variable d'ajustement. C'est loin d'être la priorité. Et moi, de ce que j'ai pu voir aussi et visiter dans des mines du Pérou ou de RD Congo, les mécanismes, en fait, sont toujours les mêmes. Les techniques un peu des entreprises et les perdants sont toujours les mêmes. C'est la plupart du temps les populations qui habitent aux environs de la mine, à qui on propose de l'emploi, à qui on propose une amélioration des conditions de vie. Et c'est bien souvent dans ces régions-là qu'il y a les gens qui sont encore plus pauvres en fait, qu'avant. Donc il y a une marge de progression vraiment importante pour ces entreprises. Mais étant donné en fait, le contexte actuel et le fait que les projections au niveau de l'augmentation de la demande en métaux, c'est-à-dire que pour les 35 prochaines années, on prévoit de consommer peut-être autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc c'est des ordres de grandeur hallucinants pour combler les besoins de l'Union européenne au niveau donc transition énergétique, voitures électriques, etc. D'ici 2030, il nous faudrait 18 fois plus de lithium. C'est quand même des ordres de grandeur très importants. 5 fois plus de cobalt, 10 fois plus de terres rares d'ici 2050. Donc dans la réalité, ça signifie des choses très concrètes. Je ne pense pas, et il y a pas mal d'experts qui le notent, que ces projections en fait, soient vraiment ne serait-ce que réalisables en fait, et que les matières premières minérales soient disponibles à temps pour réaliser toutes ces ambitions. Même le directeur de l'Agence internationale de l'énergie le dit. Et donc je pense que la concurrence va être telle, et elle fait déjà rage quand même pour le moment, que j'ai du mal à croire que les droits humains vont devenir une priorité plus importante pour les entreprises, alors même que la concurrence pour l'accès à ces matières va être plus importante. Il y a une législation européenne qui vient de sortir, vous l'avez peut-être vu passer cette année ou l'année passée, une loi sur les matières premières critiques. On voit, ça a répondu à beaucoup de demandes de la part du secteur industriel minier, mais on n'est pas rassuré par rapport à la protection des droits humains à ce niveau-là. Il y a encore les méthodes d'évaluation, de contrôle des actions des entreprises ne sont pas garanties par des organismes indépendants, etc. C'est encore en discussion, mais c'est souvent ce qui fait défaut. Le secteur minier a un gros problème de gouvernance, de surveillance. C'est un secteur qu'on a laissé tranquille pendant longtemps. Et il y a beaucoup d'initiatives volontaires qui existent, mais avec beaucoup de faiblesses au niveau des mécanismes de suivi, de contrôle et de sanctions. Donc, ce serait possible, ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas l'impression que les choses vont forcément s'améliorer dans le contexte actuel. Il y avait une deuxième partie à la question, mais peut-être que tu veux...
Non, j'allais juste demander, du coup, quels acteurs pourraient être un peu source d'espoir par rapport à ça ?
Quels acteurs pourraient être source d'espoir? Toutes les ONG, j'aurais tendance à dire, qui militent en faveur d'un plus grand respect des droits humains. Certainement des politiques, députés, etc., qui sont convaincus aussi et qui veulent faire bouger les choses. Et en termes d'initiative, je pense qu'il y a des discussions, des négociations qui se font entre certaines personnes qui veulent pousser plus loin les législations pour qu'elles soient plus sévères et que le respect des droits humains, de l'environnement soit vraiment la priorité avant les motifs économiques et financiers. Et j'imagine que c'est quand même un jeu de rapport de force.
C'est peut-être juste savoir un peu comment les populations du Nord peuvent aussi...
Mais moi, je pense que par rapport à la deuxième partie de ta question, je ne souhaite pas que... on reste dans ce rapport en fait inégal entre des pays du Sud global pourvoyeurs de matières premières et des objectifs européens de transition écologique qui ne seront de toute façon pas généralisables à l'ensemble de l'humanité. Donc pour moi, il y a un échange inégal. Il y a des matières premières qui, à la source, sont très mal payées et qui ne sont pas payées à leur juste valeur pour des creuseurs et toutes ces personnes qui se trouvent en amont de la chaîne. Et on ne peut pas accepter, en fait, ici, en Europe, de réaliser une transition écologique sur le dos et au détriment de populations du Sud. Donc je pense qu'il y a toute une logique à revoir et qu'à côté des objectifs climatiques de diminution des gaz à effet de serre qui sont dans le Green Deal, etc., beaucoup d'ONG, notamment le Bureau européen de l'environnement, plaident pour avoir des objectifs aussi en termes de diminution de notre consommation de matières premières, de l'ordre de 10% d'ici à 2030. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit que les objectifs de transition énergétique, par exemple, et de voitures électriques, vont amener une augmentation aussi des matières premières extraites et de tous les impacts qui vont avec et qu'on a tendance à minimiser. Donc la pollution sur l'eau, toutes ces zones en fait, d'extraction qui sont dans des zones avec des stress hydriques élevés, la moitié de la production de cobalt, de cuivre, c'est dans des zones avec un stress hydrique élevé, donc la pollution de l'air, des sols, les conflits que ça peut générer, les conflits armés notamment, toutes les tensions géopolitiques. Donc ces impacts-là, on a tendance à les minimiser au nom de cet objectif sur lequel on se focalise démesurément, qui est la baisse des émissions de CO2, alors que finalement, si on poursuit dans cette voie, tout ce qui est extraction minière pourrait venir aussi contrecarrer la lutte, en fait, pour freiner le dérèglement climatique.
Du coup, pour avoir, on va dire, un autre côté du problème, on voulait à toi, Calvin, commencer par te demander en quoi est-ce que l'exploitation dont souffrent les populations peut être assimilée à du néocolonialisme et comment est-ce qu'avec l'histoire commune... qu'on a, par exemple, des entreprises belges qui sont encore là-bas, continuent à perpétuer des pratiques qui ne sont pas éthiques. Et comment est-ce que l'écologie politique, ça c'est, on va dire, un deuxième volet de la question, pourrait être un bon outil pour mettre ces enjeux à l'agenda politique belge?
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est une question complexe pour nous, écologistes, parce que nous sommes dans un temps politique qui est difficile, quand on porte ces questions, dans la mesure où, d'une part, on nous dit « mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas de transition énergétique ? Qu'est-ce qu'on fait, finalement, si on n'exploite pas ? Comment on fait ?» Et puis, nous sommes dans une période où la question du climat, la question des droits humains, la question de l'extractivisme est reléguée au second plan, parce que nous sommes dans une période de crise où, les dernières élections l'ont montré, lorsqu'on veut limiter la consommation, lorsqu'on veut changer de système de production et de consommation, les partis de droite ont le vent en poupe, tout simplement parce que les gens ne veulent pas faire des efforts. Quand je dis les gens, je commence par les multinationales elles-mêmes, puisque, évidemment, ce sont ces multinationales qui produisent ce que les gens consomment. Et donc, tout d'abord, ce constat est important pour nous, parce que c'est une réflexion que nous devons avoir sur quelle est la stratégie. Ça, c'est lié au deuxième point. Mais quelle est la stratégie que nous devons mettre en place politiquement pour que ces sujets puissent être pris en compte? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans des sociétés où nous ne considérons plus ce qui se passe loin de chez nous comme étant prioritaire. Or, ce sont des choses qui ont un lien direct avec ce que nous vivons, tant au niveau du climat, de la biodiversité, que de l'environnement. En fait, quand on parle de néocolonialisme, il faut d'abord parler de colonialisme, c'est de là qu'on vient. Quand on parle de néocolonialisme, c'est tout simplement parce que le système s'est adapté. Quand on connaît l'histoire de la Belgique au Congo, et pas seulement, Parce qu'en réalité, on focalise tout sur la Belgique. Mais on a focalisé l'histoire sur la Belgique tout simplement parce qu'il y a eu un personnage qui a focalisé toute cette histoire, cristallisé toute cette histoire, c'est Léopold II. Mais déjà, ce qu'on voit aujourd'hui existait. Parce que Léopold II, qu'est-ce qu'il a fait ? Toutes les terres qu'il a conquises, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas les gérer seul. Donc, il a ouvert, c'est-à-dire le Congo, à toute une série de multinationales déjà à l'époque. Les multinationales existaient et il a passé des accords avec les grands États qui ne voulaient pas trop se mouiller, se neutraliser et donc a finalement ouvert le commerce à tout le monde. Et en réalité, c'est ce qui se passe parce que tu parlais des entreprises belges, je parlerai du Micor, mais aujourd'hui, le Congo est ouvert à tous les vents. En réalité, les entreprises belges sont là, mais on a vu dans le documentaire les Américains, les Israéliens, les Turcs, les Brésiliens, tout le monde y est finalement, hein, sauf, je dirais, sauf les Congolais eux-mêmes. Alors, on a vu l'exemple du Congo, on pourrait parler du Niger. Vous savez, tous ces régimes militaires qui prennent le pouvoir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est parce que les peuples sont désespérés et ne savent plus finalement à quel sein se vouer dans la mesure où les régimes qui sont démocratiquement ou parfois dits démocratiquement élus sont corrompus, y compris par ces multinationales et par nos pays qui sont les pays occidentaux. Donc tout part de là en réalité. Et aujourd'hui, le système n'a fait que s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve les mêmes ingrédients, les multinationales, qui s'appuient sur les pays occidentaux, qui s'appuient sur des législations qui ne sont pas assez adaptées et qui s'appuient également sur des États qui sont parfois des États faillis, comme celui de la République démocratique du Congo, en réalité. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut parler de néocolonialisme dans la mesure où des pratiques qui existaient à l'époque, y compris des pratiques politiques, parce qu'aujourd'hui, le CNCD 11-11-11 travaille sur un dossier qui date déjà du début du XXe siècle, où on a exproprié des terres aux villageois pour faire des palmeraies à l'époque. Donc, ces entreprises qui en ont bénéficié et qui, aujourd'hui, constituent Unilever, à qui la Belgique coloniale a octroyé des terres gracieusement pour les exploiter. Donc, à l'époque, en fait, on exploitait uniquement les ressources qui se trouvaient au-dessus de la terre. Bon, le diamant, on l'a découvert durant cette période, durant la Belgique, quand la Belgique a repris le Congo. Mais quand Léopold II était là, c'était le caoutchouc, c'était toute une série de... Et donc, aujourd'hui, finalement, ce qui est le plus prisé, ce sont les ressources en dessous de la terre. Géraldine a parlé des besoins tout à l'heure. Il faut rappeler qu'elle a parlé de 2030. En 2050, c'est 60 fois plus de lithium et 15 fois plus de cobalt. Cela veut dire que si je prends l'exemple des voitures électriques, on parle de 1 milliard de voitures électriques donc en Europe, dont 2 millions uniquement en Belgique. Ça, ce sont des besoins. Et donc, ces questions vont continuer à vivre. Et les rapports de force politique tels qu'elles existent aujourd'hui, entre les multinationales, les États du Nord et les États du Sud, font que ces pratiques néocoloniales continuent. Quand on voit Dan Gertler, quand on voit les multinationales, qu'est-ce qu'elles font ? Comme les multinationales soutenaient Léopold II, elles font exactement la même chose. Elles soutiennent les dirigeants qui sont en capacité de pouvoir garantir leurs bénéfices sur le terrain. Et il y a une dame qui parlait de, quand on parle de chaîne d'approvisionnement, elle disait, mais vous savez, finalement, les différents intermédiaires, on ne les maîtrise pas beaucoup. En réalité, ce sont ces intermédiaires qui violent, notamment à l'est du Congo. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin que les populations déguerpissent des terres pour qu'elles puissent les exploiter. Et finalement, toutes ces grandes entreprises, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Huawei, etc., bénéficient de cette opacité qui existe aujourd'hui. Et finalement, l'Union européenne avait mis en place un règlement sur les minerais de conflit, notamment grâce aux verts européens. Il y a une obligation pour les importateurs de 4 métaux, notamment l'or, l'étain, le tungstène et le tantale, hein, de pouvoir avoir plus de transparence sur les chaînes d'approvisionnement. Ça a été fait aussi pour le diamant lorsqu'il y a eu les conflits en Sierra Leone et au Libéria. Et ici, il s'agira d'aller beaucoup plus loin pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Quand on prend Umicore, qui est une filiale de l'Union minière donc, dont on a parlé, qui est une entreprise belge, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète du cobalt chez Glencore. Glencore, c'est une entreprise, une multinationale pourrie, mais vraiment pourrie, qui utilise la corruption, qui, et je l'ai noté, qui, en fait, en termes de pollution, est une entreprise catastrophique. Hein, par exemple, en 2018, elle a déversé des eaux usées toxiques dans le lac Tchad. En 2021, on parlait de la pollution des rivières en RDC. Tout autour de Kolwezi, les fuites d'acide qui ont été déversées dans les rivières. Et il y a eu aussi de la contamination des eaux au Pérou. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme sanction ? Parce qu'elle a été traînée en justice devant les justices américaines, brésiliennes, notamment britanniques aussi. Eh bien, on lui a infligé une amende de 1,5 milliard d'euros. Pour une telle entreprise, c'est rien du tout. Et en réalité, si on veut sortir, pour moi, c'est une question de rapport de force, comme à l'époque. Hein. À l'époque, c'est parce qu'à un moment donné, et Géraldine a raison, les ONG de l'époque, de Léopold II, ont tellement crié, ont tellement donné de la voix qu'à un moment donné, l'État belge lui-même s'est dit « il faut agir ». Et donc, quand on dit que Léopold II a donné le Congo à la Belgique, ce n'est que de la propagande, il a été forcé de céder l'État, donc l'État indépendant du Congo à la Belgique, donc c'est devenu le Congo belge. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces voies-là doivent être, pour lutter contre le néocolonialisme, ces voies-là doivent s'élever, mais aussi celles du Sud. Comment est-ce que nous donnons de la force aux voies du Sud, en réalité ? C'est ça, parce que je ne crois pas personnellement au mythe du sauveur qui viendrait de quelque part pour uniquement faire monter le rapport de force en faveur des populations locales. Donc, les acteurs locaux qu'on a vus sont extrêmement intéressants et deviennent de plus en plus puissants. Je pense qu'il faut leur donner de la force pour qu'elles s'organisent, y compris localement, afin de pouvoir résister à deux forces. Les multinationales, d'une part, mais aussi leur propre gouvernement, parfois. Parfois, pourquoi ? Parce que ces gouvernements n'ont pas intérêt à ce que ces acteurs locaux puissent émerger. Je terminerai en disant que quand on parle de néocolonialisme, on nous objecte aussi le fait qu'on nous dit « mais vous, écologistes, vous dites « ok, il faut continuer la transition, mais il faut diminuer la consommation ». Quand on parle de sobriété, c'est ça. Pourquoi est-ce que nous devons diminuer les voitures, etc. ? C'est pas seulement pour les gaz à effet de serre. C'est aussi parce qu'on va avoir de plus en plus de véhicules électriques et plus on va consommer des voitures, plus la demande va augmenter. Et donc, à un moment donné, on ne pourra pas continuer comme ça. Alors, la droite nous dit, mais si vous le faites, les populations qui sont sur place, les enfants qui creusent, parfois, ce sont ces enfants qui nourrissent leur famille. En réalité, l'histoire de l'humanité a montré que lorsqu'on change de système, les gouvernants se sentent obligés de changer. Et si on change de système, c'est-à-dire qu'on diminue l'exportation des matières premières, les dirigeants du Sud, sous la pression de leur population, seront obligés de changer de système économique. Le Kivu était le grenier de l'Afrique centrale. Agriculture, élevage, pêche, etc. Aujourd'hui, l'économie est uniquement basée sur l'extractivisme et sur l'exportation des matières premières. Ce n'est pas acceptable. Une économie ne peut pas fonctionner comme ça et nourrir toutes les populations qui sont en son sein.
Merci beaucoup. On va prendre des questions, comme ça on a bien le temps de pouvoir discuter. On va passer avec un micro, donc.
Bonjour, merci beaucoup à chacun des intervenants pour les éclairages qui ont été apportés. C'est très précieux pour nous, vraiment, merci. Je reviens sur la question que je voulais poser tout à l'heure. Donc c'était un peu le deuxième volet de la première question qui portait sur l'extraction. Vous l'avez bien expliqué pour ce qui est des pays du Sud, mais je n'avais pas tellement abordé la question des pays du Nord. Ma question là derrière, c'est de savoir est-ce que ce soit au Nord ou au Sud, de toute façon, est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'il y a une possibilité technique, est-ce que ça existe techniquement de pouvoir faire de l'extraction d'une manière propre ou la plus propre possible.
À ma connaissance, de ce que j'ai lu, et notamment des travaux d'organisation Sistext qui travaille sur ces questions en France de façon approfondie et fort documentée, les techniques minières ont très peu évolué depuis 2 siècles. C'est-à-dire que pour l'or, on utilise toujours la cyanuration. Et même Sistext va jusqu'à dire que les techniques minières qui sont présentées comme novatrices par l'industrie minière sont plutôt pires en termes d'impact. Je cite par exemple le block caving, on va trouver un gisement, on va faire exploser la roche par en dessous et puis alors récolter en sous-sol tout ce qui s'effondre. Bon, je ne suis pas ingénieur géologue minière, mais c'est en tout cas leur constat. Et que quand il y a des innovations, c'est plutôt avec des objectifs plutôt économiques, de rentabilité, et c'est plutôt des innovations technologiques qui sont un peu plus accessoires sur dimension numérique, ça va être, je sais pas, des choses, mais un peu à la marge, en tout cas qui ne changent pas fondamentalement les techniques d'extraction minière. De plus, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que vu que la teneur en minerais dans la roche diminue, on va de plus en plus aller vers des mines à ciel ouvert, de plus en plus vastes. Et la Banque mondiale alerte aussi pour dire que dans l'avenir, il y a le risque qu'on aille de plus en plus vers des aires protégées à haute valeur en biodiversité, parce qu'on va repousser les frontières. Déjà, c'est le cas, hein, il y a des mines qui se trouvent dans des forêts protégées ou à proximité avec des impacts sur ces zones-là. Donc déjà, c'est moyen, mais ça va être encore pire demain. Je dirais ça. Et moi, ce que j'ai pu voir en Europe, j'ai été un peu voir des mines en Andalousie. Alors, c'est des régions qui ont un passé minier très important et c'est des régions où il y a une grande acceptabilité de la mine. C'est des régions assez pauvres économiquement et donc la mine est vue comme quelque chose de très positif qui assure un revenu pour les gens et qui fait vivre l'économie de la région. Donc, il y a une identité minière très forte et ça, il faut pouvoir voir aussi que dans certaines zones d'Europe, ça existe et je suis en faveur de, si la population est favorable à l'installation d'une mine, eh bien, et que les choses sont discutées convenablement, voilà. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il disait quand même que les entreprises étaient plus dures en affaires qu'il y a un siècle. Là où l'entreprise d'il y a un siècle était plus le rapport entre le chef et l'employé était plus bienveillant, on va dire, on se souciait plus du bien-être du travailleur, etc. Ici, la logique économique capitaliste poussée à l'extrême, on voyait aussi qu'il y avait du découragement des syndicats, qu'il y avait des licenciements abusifs de personnes qui étaient affiliées à des syndicats. C'était très compliqué aussi pour ces travailleurs-là. Chaque situation est un cas particulier, mais tout n'est pas rose non plus en Europe. Et je pense que c'est dû aussi à une logique économique qui pousse à la rentabilité à l'extrême au détriment d'autres.
On va prendre la deuxième question et puis comme ça, on peut passer un maximum par tout le monde.
Merci. Franchement, c'était vraiment... Enfin, je suis aussi d'accord. Vraiment, c'était vraiment très éclairant, très intéressant. Moi, j'ai une question, mais vous l'avez abordée tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'extractivisme. Et comme pour les matières fissiles, on doit aller de plus en plus loin avec des méthodes pour extraire de plus en plus lourdes. Donc, est-ce qu'on ne risque pas finalement de contrebalancer le gain qu'on veut faire en électrifiant notre parc automobile ici en Europe, on va le perdre en utilisant des machines finalement très 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 polluantes pour extraire tous ces métaux?
Oui. Ben moi, je pense que de fait, on sous-estime les interdépendances qu'il y a entre les enjeux énergétiques et les enjeux miniers. On doit aller creuser toujours plus loin, avec toujours plus d'énergie, avec toujours plus d'intrants aussi à apporter dans la machine, donc de l'eau, des produits chimiques, etc. Et donc, c'est un peu une fuite en avant. Donc moi, je suis de fait assez sceptique et je pense qu'on doit aller... Enfin, qu'on doit avoir conscience de cette matérialité, qu'on a tendance à ignorer un peu trop, et qu'on doit revoir nos objectifs à la baisse. Et je pense que quand même, quand on voit dans les projections de l'Agence internationale de l'énergie qu'on doit multiplier par 6 la consommation de minerais d'ici 2040 pour rencontrer les objectifs de neutralité carbone, quand on voit le bâtonnet, 2/3 de la demande, c'est pour les véhicules électriques. Donc je pense qu'il y a quand même... matière à poser un débat démocratique pour se dire, tiens, 2/3 de la demande pour les véhicules électriques. En plus, quand on voit la tête des véhicules électriques aujourd'hui, il y a clairement moyen de tellement mieux faire que ce qu'on fait aujourd'hui. Une fois qu'on a pris conscience de tous les impacts, de tout ce que ça engendrait l'extraction minière, je crois qu'il y a moyen d'épargner beaucoup de choses, en fait, dans nos objets du quotidien, dans nos objets électroniques, et de poser des réflexions vraiment plus profondes sur cette matérialité qui n'est pas forcément indispensable partout. Si on revoit la mobilité, si on va vers les objectifs aussi poursuivis par les écologistes, une mobilité plus collective, plus partagée, des transports en commun, et de toute façon, moins de voitures. Je crois qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse. Mais clairement, le nombre de voitures doit diminuer, ça doit être des autres voitures, on le sait, en fait. Mais pour l'instant, il y a toujours juridiquement, législativement, des choses qui permettent que, en fait, c'est une loi économique qui vise à faire un maximum de plus-value, qui fait que l'industrie automobile propose des espèces de tanks qui sont accessibles à une minorité de la population.
Je voulais juste rajouter un élément à cette réponse. Je pense que quand on parle de forêt, on a un danger qui pointe à l'horizon. C'est le fait que l'économie chinoise est assez demandeuse de plus en plus de pouvoir acheter des terres pour pouvoir les exploiter au niveau des matières premières. Et on sait que le bassin du Congo est passé devant l'Amazonie en termes de régulateurs climatiques. Depuis que Bolsonaro est passé au pouvoir, avec toutes les politiques qui ont été menées, ça a beaucoup desservi l'Amazonie, le rôle de l'Amazonie. J'en parle parce qu'en République démocratique du Congo, mais dans le bassin du Congo en général, je parle du Congo-Brazzaville, du sud du Tchad, du Cameroun, du Gabon, on a des grosses tourbières, les plus grandes tourbières, donc ce sont ces zones humides avec une très grande biodiversité qui ont une capacité de stockage du carbone qui est hyper importante, en fait, et qui constituent des outils de régulation climatique qui sont absolument importants. Si, finalement, notre consommation est aussi gourmande, eh bien, petit à petit, il y a déjà la pression de la Chine sur le gouvernement de la RDC pour pouvoir accéder à cette tourbière-là. Et donc, finalement, le rôle de régulateur de cette tourbière va être complètement mis en danger. Et ça a été, il y a de sérieuses études là-dessus. Et c'est un vrai danger dont on ne parle pas assez. Et aujourd'hui, ces terres sont de plus en plus en danger. En tout cas, pour le moment, ces États résistent. Mais lors des COP, elles le disent. Ils le disent, ces États le disent. Ils disent, si les États et les multinationales occidentales continuent la politique telle qu'elle continue, et s'il n'y a pas assez de compensation, eh bien, on sera obligé de répondre favorablement aux demandes de ces États émergents, comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Russie et la Chine, par rapport à ces tourbières qui sont absolument importantes.
On va prendre une troisième question et peut-être qu'on peut prendre directement la quatrième question.
Merci, j'avais une question pour chacun. Merci pour toi déjà. D'abord pour vous, je voulais savoir ce que, selon vous, il fallait penser du cadre régulatoire de l'Union européenne et aussi et surtout voir ce qu'il faut penser de la manière dont elle a de passer des accords commerciaux internationaux. Je pense à ce niveau-là, au niveau d'un point assez noir, du partenariat qui a été effectué avec le Rwanda, dont on peut voir que au niveau des ressources, une bonne partie provient en fait du Congo et de l'exploitation et du massacre, enfin des situations compliquées qu'il y a dans l'Est. Et pour Calvin, vous avez parlé de l'émergence qui devrait avoir des voies du Sud. Comment faire pour que ces voix soient réellement et en pratique entendues ici et qu'elles puissent être mises en œuvre dans les politiques que l'on prend? Voilà.
Oui. Bonjour. J'habite dans l'est de la Belgique, donc du côté de Plombières. Et là, il y a eu des levées pour essayer d'avoir relancé les mines de plomb et de zinc. Et ils ont signalé, enfin, les partisans, oui, ce sera des mines propres, etc., ce sera en profondeur, je ne sais pas. Il y a un effet NIMBY, évidemment, il y a une levée de boucliers écologiques dans le coin. Que penser de ce genre de situation?
Merci, donc on va répondre à ces questions et puis après on prendra encore deux questions.
Donc sur la législation européenne, moi je crois qu'il y a beaucoup de... Elle est insuffisante et elle offre pas suffisamment de garanties, je dis, en termes de protection des droits humains. Donc, c'est les arguments de la souveraineté, de l'autonomie stratégique qui sont avancés. Mais nulle part n'intervient justement une perspective de diminution de la demande pour justement diminuer les dépendances, etc. C'est quand même dommage, même si ça va à contre-courant, a priori, de, de l'idéologie dominante. Mais voilà, je ne dis pas assez de garanties en termes de contrôle des actions des entreprises. A priori, quand même, cette notion d'intérêt public supérieur qui semble être entrée en vigueur pour que ces projets en fait, soient facilités, les projets miniers qui soient accélérés aussi. C'est pour 2030 qu'il faut extraire 10% donc, de notre consommation, de la consommation européenne. L'ambition, c'est que 10% soit extrait sur le sol européen de la consommation de métaux. Alors qu'aujourd'hui, on est à bien moins que ça. Je sais pas, on doit être à 3%, 1%. Beaucoup d'observateurs disent que de toute façon, ça donne une trajectoire, mais ce sera pas atteint. 40% de la transformation de ces matériaux, de ces métaux, devrait être réalisée sur le sol européen. C'est des tas de savoir-faire qu'on a perdu quand même dans pas mal d'endroits. Donc il y a des points d'inquiétude et il faut continuer à être vigilant là-dessus. J'ai écrit une petite étude sur la relance minière européenne qui va encore plus loin et qui est gratuite en bas. Donc ça va encore plus loin dans la réponse. Et sur Plombières, ben oui, je sais que tout ça a été d'actualité ces dernières années. Moi, je ne sais pas dire, il faudra en discuter avec Éric Pirard aussi, hein, qui était un interlocuteur sur le sujet aussi. Je ne sais pas dire quel type d'exploitation, quel type d'extraction serait mis en œuvre hypothétiquement à Plombières. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas donner d'éléments tangibles. Je n'ai pas les compétences techniques suffisantes et je n'ai pas l'information pour dire... Voilà, ce qui serait prévu. Je sais qu'il y a le collectif Les Domineurs qui suit la question de très près depuis quelques années aussi. Il y a le nouveau code minier wallon qui a été voté ici en fin de législature par le cabinet de Céline Tellier. Je pense qu'il y a un certain nombre de balises qui ont été posées. Voilà, mais peut-être qu'Alvin a plus d'éléments. En tout cas, c'est quelque chose qu'on... Si ça se concrétise, on y sera attentif, quoi.
Non, je n'ai pas plus d'éléments sur Plombières, mais c'est effectivement quelque chose qu'on suit. On verra. Je crois que la question des mines en Europe va se poser, comme le documentaire le montre, si à un moment donné, et je crois qu'on va y arriver, c'est quelque chose d'inévitable. Pourquoi ? Parce que, et je fais le lien avec la question sur l'émergence des voies du Sud, à un moment donné, les peuples... face à des nécessités, l'histoire fait que les peuples s'organisent, vont chercher parfois ce qui n'est pas forcément démocratique pour pouvoir trouver des solutions. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça tout simplement parce que quand on voit ce qui se passe au Niger aujourd'hui, Areva, qui est devenu Orano, concernant l'exploitation notamment de l'uranium, est en forte difficulté. Parce que l'État français, pendant des années et des années, a soutenu des régimes qui lui ont permis d'exploiter d'abord de manière tout à fait gratuite. Avec toutes les pollutions, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une enquête qui a été faite par le magazine flamand MO en 2017 au Niger et qui a montré très clairement tout ce que le documentaire montre, les cancers, la biodiversité qui disparaît, les sources d'eau qui sont complètement polluées. Et puis, on a des voies de migration qui s'installent là-bas, tout simplement parce que les jeunes n'ont plus aucun débouché. Et en réalité, Orano n'a plus accès, comme avant, à l'uranium nigérien. Or, c'est l'un des uraniums qui est le plus enrichi, qui est le plus riche, en fait. Et ce qui se passe, c'est que finalement, avec la compétition qui va se mettre en place avec la Russie, avec la Chine, avec toutes les autres puissances émergentes, si la demande continue à augmenter, la question se pose déjà. J'ai lu des analyses qui demandaient, mais est-ce qu'on ne doit pas accélérer la réouverture des mines ici en Europe ? Je crois que ça, c'est si on ne change pas de modèle, si on ne change pas de système, on sera obligé d'y répondre. Et Géraldine l'a dit tout à l'heure, on a des parties en Europe, des villes, des territoires qui ont une mémoire minière qui est plutôt positive collectivement. Et si ces populations commencent à dire, mais finalement, si nous soutenons la réouverture des mines, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne répond pas concrètement à la question de la limitation de la consommation, à la question du changement de modèle, cette question va s'imposer à nous. Concernant le cadre régulatoire de l'Union européenne et en lien avec l'émergence des voies du Sud, j'avais proposé à Ethiopia, qui avait soutenu une série de rencontres qui avait été organisée, qui était intitulée « Décoloniser les regards pour affronter l'urgence écologique ». Et on avait invité toute une série d'acteurs, et je remercie encore et vraiment vivement Ethiopia d'avoir soutenu ça, des acteurs qui venaient du Sud, du Burkina Faso, du Mali, du Congo, qui sont venus nous expliquer en réalité quelles sont les réalités sur place. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter de soutenir tout un certain nombre de régimes, des dictatures, des régimes autocratiques qui, finalement, ne laissent pas la place à ces voies du Sud d'émerger. Quand on ne les soutient pas, les organisations, les mouvements de la société civile, mais aussi des mouvements politiques, pas au sens politicien du terme, mais des mouvements de politique citoyenne, arrivent à s'organiser et à être des contre-pouvoirs efficaces. Sinon, le seul contre-pouvoir qui va exister, c'est l'armée. Parce que les populations n'ont pas d'alternative, en réalité. Et donc, parfois, même, disons, ces mouvements qui sont très faibles finissent par soutenir l'armée. Un capitaine, un commandant, un général qui arrive au pouvoir et qui dit « En fait, moi, je suis venu, entre guillemets, balayer la maison, nettoyer la maison, et puis ensuite nous rentrons dans nos casernes et nous allons vous laisser le pouvoir. » On sait ce qu'il advient, c'est que ces militaires restent au pouvoir et ne partent plus. Et donc, aujourd'hui, je pense que si on arrête de soutenir, et ça c'est une volonté politique, que ce soit la France, la Belgique, toute une série, les États-Unis, en fait, c'est ça le cœur du sujet. Et la réforme aussi des organismes internationaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et toute une série d'organisations internationales qui émettent des règles, finalement, qui ne sont pas favorables aux États du Sud. Je crois que ce sont des éléments qui sont absolument essentiels. Il faut aussi soutenir les diasporas parce que les mouvements de la diaspora sont très souvent connectés avec ce qui se passe sur place. Et je crois que on sous-estime la capacité à créer un rapport de force si on les soutient des deux côtés. Et tant qu'on ne changera pas de modèle, j'insiste là-dessus, nous aurons, si demain on a un Premier ministre écologiste, il ne faut pas se leurrer, La question va se poser. La question des intérêts économiques de la Belgique va se poser. Et quelle est la réponse qu'un Premier ministre écologiste va apporter à cette demande? Parce que la pression va être grande dans la société ici. Et donc c'est pour cela que la question du changement de modèle est importante. Nous devons continuer à travailler à ce que, disons, nous devons gagner les cœurs. Et aujourd'hui, suite à notre défaite, il y a une question essentielle qui se pose. À quel rythme nous voulons y arriver? Parce que c'est ça, c'est ce qui est essentiel. Est-ce que nous voulons y arriver graduellement et donc arriver à convaincre de plus en plus de gens, parce que c'est la question qui nous est posée, ou alors est-ce que face aux urgences, nous nous disons, effectivement, nous intégrons le fait que si nous arrivons au pouvoir, nous mettons en place des politiques qui répondent le plus rapidement possible à ces urgences, quitte à fâcher une partie de la population, et à assumer le fait de retourner dans l'opposition. Mais ce sont des questions, et dans l'opposition, on n'a pas toujours les leviers, ce sont des questions qui se posent et qui sont fondamentales. Dans l'opposition, on ne peut pas soutenir ces voies émergentes. Et moi, j'en appelle aussi dans le mouvement écologiste à avoir, dans nos programmes, parce que je le dis personnellement, j'étais malade le jour où il y a eu le vote du programme d'écolo. On m'avait demandé de donner mon avis sur le programme international, et j'avais intégré ces questions. Donc Sanchou et moi. Et puis, je me suis rendu compte que lorsqu'il y a eu donc, le vote en Conseil de fédération, tout ce qui touchait à la République démocratique du Congo, tous ces amendements ont été rejetés. Moi, ça m'a posé question. Je n'étais pas là. Je n'ai pas pu défendre ces amendements parce que j'étais très malade. Mais je me suis posé des questions sur est-ce que nous sommes vraiment conscients de finalement du lien que nous avons avec ces questions. Et donc, j'en appelle aussi à ce que ce débat vive au sein du mouvement écologiste, dans notre parti, et qu'on puisse y apporter des solutions, y compris dans la manière de soutenir ces voies émergentes du Sud.
Un tout petit commentaire pour dire ce qui me dérange un peu, parce qu'on parle vraiment de rouvrir des nouvelles mines en Europe, et la question se pose, et c'est soutenu par l'Union européenne. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Il y aurait tellement de voies à explorer avant pour éviter cela, et il y aurait tellement de plus d'efforts à fournir sur l'éco-conception, sur la réparation, sur prolonger la durée de vie des objets, sur, sur la suppression même d'usages inutiles, en fait, d'usages de métaux en fait, qu'on peut épargner. Donc je trouve que c'est là que je suis un peu mal à l'aise toujours dans ce débat de « oui, il faudrait rouvrir des nouvelles mines ». J'aimerais qu'on puisse avoir, dans l'idéal, un questionnement, un débat démocratique sur en fait quelles mines, pour quels usages, et se dire qu'il y a tellement de champs qui ne sont pas suffisamment explorés, dont on parle, hein, on entend parler quand même au niveau des politiques européennes, mais les efforts, peut-être parce qu'à nouveau, c'est des questions économiques, ne sont pas suffisamment mis sur ces aspects-là. Voilà, donc dans l'idéal, quels métaux pour quel besoin. Et de toute façon, on aura beau ouvrir des mines en Europe, il faudra toujours aller chercher ailleurs, parce qu'on n'a pas tout dans le sous-sol pour répondre à nos besoins qui sont démesurés. Pour 6% de la population européenne qui est sur la population mondiale, les Européens, c'est 6%, qui consomment 25% des métaux de la planète. Donc il y a clairement un déséquilibre.
On va prendre la toute dernière question posée en une minute.
Oui, vous avez attiré l'attention sur l'importance de donner de la voix à la société civile dans les pays dans lesquels on extrait de multiples minéraux. Mais vous avez bien montré dans votre dernière intervention combien, naturellement, le régime politique est déterminant, entre autres pour reprendre la maîtrise foncière et la maîtrise sur les concessions, etc. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, quels espoirs vous avez que dans un pays comme la RDC, on puisse arriver à un pouvoir politique qui puissent maîtriser tout ça. Quand on voit, par exemple, à l'heure actuelle, combien la situation au niveau du Kivu est hyper compliquée, avec parfois, au-delà des multinationales, des problèmes entre États, si pas des pillages de ressources naturelles. Et donc, quels sont vos espoirs, à un moment donné, que les choses puissent tourner en termes de régime politique ?
C'est une grosse question. Rapidement, j'avais oublié, Géraldine a raison sur un point, les solutions. Rappeler quand même que quand les Verts sont dans les gouvernements, il y a des choses qui bougent. Zakia a fait voter l'indice de réparabilité qui existe depuis 2021 en France. Et donc, la nécessité de faire réparer, donc que la population soit consciente aussi des capacités de réparabilité d'un appareil. Mais de l'autre côté aussi, le recyclage, qui est un travail qui doit être mené et pour lequel on doit donner de plus en plus de moyens. Nous avons visité durant la campagne le seul atelier de réparabilité et de recyclage qui existe ici en Belgique. Et assez étonnamment, enfin c'est pas étonnant, on peut considérer que c'est un MENA, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé, qui était mineur non accompagné, qui a créé cette entreprise et qui se trouve, si vous voulez, faire réparer, vous faire à repasser vos appareils pour ne pas en racheter. Vous allez au moins un à la gare centrale. Ça s'appelle l'atelier Simandou. Et vous allez... En plus, il est chez Ecolo. Bon, il est très occupé, donc il est à Oloué-Saint-Pierre. Et donc, je vous invite à aller voir. Je crois que c'est dans cela qu'on doit investir beaucoup plus de moyens. Et si nous étions dans un gouvernement... Je crois qu'on aurait pu obtenir le fait d'investir beaucoup plus dans ces filières-là. Sur la question, je pense que les États africains, notamment la République démocratique du Congo, ont plus de ressources qu'on ne le pense. Sauf que les personnes et les mouvements qui ont, disons, les idées, mais aussi les capacités de pouvoir porter ces alternatives ne sont pas assez soutenues. On a déjà un problème dans certains pays, et notamment en République démocratique du Congo, en lien avec l'histoire coloniale, c'est la question de l'éducation. C'est la question de l'éducation. Parce qu'on a des régimes qui n'ont pas intérêt à ce que l'éducation soit la plus poussée possible pour prendre conscience des enjeux. Quand je parlais tout à l'heure de la diversification de l'économie, aujourd'hui, les populations locales où on exploite les ressources, ne pensent leur horizon, leur avenir, que par l'exploitation des matières premières. Elles ont perdu même parfois la mémoire du fait qu'il a existé quelque chose avant. C'est-à-dire que ces populations ont pu vivre mieux qu'aujourd'hui avec une autre économie. Et donc, il y a la question de la transformation des ressources sur place, qui est un vrai enjeu pour les États africains. Je pense que la consommation interne à l'Afrique est une des solutions. Et en réalité, ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de marché régional, interne, qui absorbe l'exploitation des ressources, transformer sur place et consommer sur place. Ça, c'est, pour moi, c'est l'une des solutions. Donc, pour moi, on a deux pieds sur lesquels marcher. Un, la question du marché interne. Et donc, comme les États européens, la France et l'Allemagne, sur la question du charbon, finalement, la base de l'Union européenne, c'est quoi ? C'est ça. C'est ce qui a amené la paix. Et moi, je suis convaincu qu'avec d'autres dirigeants, mais aussi avec une base comme celle-là, on pourrait arriver à une paix et à une coopération économique entre ces États. Et dernière chose, ces acteurs qui, pour moi, sont importants, à qui on doit donner les moyens, et effectivement, des acteurs qui peuvent arriver au pouvoir, qui peuvent soutenir l'éducation, qui peuvent soutenir la prise de conscience par les populations de leurs propres capacités. Je crois que c'est l'espoir qu'on pourrait avoir. Il y a des exemples qu'on a eu. Le Botswana, aujourd'hui, on n'en entend pas parler. Quand vous n'entendez pas parler d'un État africain, c'est qu'il fonctionne bien. Au Botswana, c'est le premier producteur de diamants. Et parce que c'était une royauté. Et le roi, à un moment donné, un roi a décidé de se démettre et de faire du Botswana une république avec une répartition des ressources équilibrée et qui fait qu'aujourd'hui, ce pays est l'un des plus prospères d'Afrique. Donc je pense qu'il y a des exemples positifs sur lesquels on peut s'appuyer. Le Ghana, malheureusement, est en train de retomber, mais quand John Jerry Rawlings arrive au pouvoir, c'est un militaire, mais par l'éducation, par la prise de conscience, il change les choses. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il donne une fierté aux Ghanéens par rapport à la capacité à pouvoir produire par eux-mêmes leurs propres ressources et à pouvoir les exploiter sur place. Je crois que c'est important. C'est ce que Thomas Sankara a voulu faire au Burkina Faso et que malheureusement, il a été assassiné.
Du coup, j'allais dire que tu finissais par un point un peu positif, mais en parlant de... Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pu participer. Je tiens à remercier du coup Géraldine et Calvin qui ont pu répondre aux questions et qui ont pu nourrir cette discussion. Si vous avez entre 15 et 35 ans, n'hésitez pas à venir voir ce que Écologie propose comme activité. Et on vous souhaite à tous et à toutes un très bel après-midi. Merci à Écologie et à Ethiopia pour l'organisation.
Ce débat était enregistré au Verpop de Namur le 23 août 2024. Il était animé par Clara Gatougou de Écologie, avec Géraldine Duquesne, conseillère d'Ethiopia, et Calvin Soares, enseignant et ancien député écolo, militant décolonial. Retrouvez les enregistrements du Verpop sur le site ethiopia.be. Ethiopia, centre d'animation et de recherche en écologie politique.